Les derniers secrets. Doit-on le faire avec ou sans les autres? C'est une vraie question que l'on peut rapidement se poser. Lorsque l'on fait un tel changement dans ses réflexes cérébraux, est-il nécessaire ou futile d'inclure son entourage proche dans cette démarche? J'entends par entourage proche les personnes avec qui vous passez le plus clair de votre temps personnel. Que ce soit par amitié, par amour, par les liens familiaux ou même par obligation, comme par exemple dans une colocation. Les stimuler avec subtilité à entreprendre de petits changements, de petits réglages, va sûrement vous ralentir dans votre propre processus. Car en faisant cela, vous prenez à votre compte une partie de leur charge mentale. Mais il y a un proverbe africain que j'aime beaucoup et qui trouve tout son sens ici. Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Vous irez plus loin car vous ne subirez plus par ricochet les émotions négatives des personnes qui vous entourent. Votre empathie vous rend comme une éponge et les sentiments des autres peuvent affecter les vôtres. Vous irez plus loin car vous allez créer un écosystème de personnes heureuses qui ne craignent pas l'échec autour de vous. Vous irez plus loin car en expliquant des concepts aux autres, vous les comprendrez encore mieux et les renforcerez chez vous. C'est toute la beauté de la transmission du savoir. Je vous recommande de le faire par touche, dans des situations concrètes, lorsque la personne a besoin d'aide. Ne le faites pas nécessairement durant un moment de crise, car la raison de l'autre est parfois moins accessible, mais juste après, quand tout est retombé et qu'il est disposé à vous écouter. Reparlez du moment, des causes, des conséquences et appliquez les conseils nécessaires sur comment aurait pu être abordée différemment cette situation. A contrario, je vous déconseille de vous jeter à corps perdu dans une grande conversion de votre entourage proche. Lorsque l'on découvre une méthode ou une philosophie qui nous stimule mentalement, on ressent le besoin d'en parler beaucoup, surtout dans les débuts. Beaucoup, beaucoup trop. Vous connaissez sûrement quelqu'un qui vous a noyé de paroles concernant les bienfaits du sport alors qu'il avait commencé 2 jours avant. Ou quelqu'un qui vous parle de n'importe quelle bonne résolution qu'il tient depuis moins d'une semaine. Est-ce que ces moments ont eu un impact positif ou ont généré un déclic chez vous? Non. Vous devez agir par touche, avec parcimonie, lorsque c'est nécessaire uniquement. Dans Huis clos, Jean-Paul Sartre a écrit « L'enfer, c'est les autres ». Si on garde le fait que vous êtes responsable de votre vie, cette citation se révèle inexacte. Mais pourquoi, au fond, y trouvons-nous un sens, une forme de vérité? Simplement parce que les 2 pièges qu'il nous faut surmonter sont nous-mêmes et les autres. Nous pouvons alors écrire « Le piège le plus inattendu, c'est les autres ». Voici une clé. Si vous améliorez l'air où vous vivez, alors tout le monde respirera mieux. Si vous améliorez la souplesse mentale des personnes que vous côtoyez, alors tout le monde sera plus heureux. L'échec des enfants. On pourrait naïvement penser qu'en montrant l'exemple, on inspire la prochaine génération. Cependant, dans le rapport à l'échec, fondement du bonheur et de la souplesse mentale, il est de notre devoir d'adulte d'aider les plus jeunes à ne pas se construire cérébralement une fausse perception de la réussite. Si j'en suis certain, c'est que le plus gros de mon travail personnel dans la gestion de l'échec a été d'oublier tout ce qu'avait généré mon enfance. Douleur des mauvaises notes comme des notes moyennes, comparaison perpétuelle avec les autres qui avaient plus d'amis, plus de facilité dans leur rapport aux autres, sentiment permanent de ne pas être à la hauteur. J'ai accumulé mes premières casseroles émotionnelles très tôt. Si je pouvais changer quelque chose, ce serait d'amener les adultes qui m'entouraient à m'apprendre à gérer mes échecs dès le premier. En protégeant la racine, l'arbre se développe plus sainement. J'ai donc décidé d'ajouter ce chapitre. Ce n'est pas une méthode dans la méthode, voyez plutôt cela comme un guide pour vous stimuler et vous inspirer. Imaginons que votre enfant, ou un enfant dont vous êtes proche, vienne vous dire qu'il a complètement raté une interrogation à l'école. Qu'auriez-vous envie de lui dire? Le punir? Il semble que les sentiments qu'il ressent en cet instant sont assez punitifs. Le féliciter? Vous y trouveriez quelque chose d'incongru, n'est-ce pas? Et si vous discutiez simplement avec lui? As-tu fait de ton mieux? Si oui, C'est la chose la plus importante et tu peux en être fier. Tu n'as pas échoué, tu es en train d'apprendre quelque chose. Ce n'est qu'une étape. Alors, d'après toi, quelles sont les leçons à tirer de cette interrogation? Cela ne veut pas dire que tu n'es pas intelligent. Cela veut dire que tu manques d'expérience dans les mathématiques. Est-ce que tu veux que nous cherchions ensemble comment les comprendre en s'amusant? Une notation sur un exercice ne définit pas qui tu es. Cela reflète juste la marge d'apprentissage qu'il te reste sur ce sujet. Personne n'a besoin d'être parfait, mais tout le monde doit donner son plus grand potentiel. Dans son ouvrage « Changer d'état d'esprit, une nouvelle psychologie de la réussite », la professeure Carol Dweck explique que si l'on éduque les enfants à changer volontairement leur état d'esprit, nous impactons directement leur intelligence, leur bonheur et la réussite de leur vie. Effectivement, cela commence dès le plus jeune âge. Voici quelques clés à respecter, que votre enfant ait 4 ans ou 15 ans, pour les aider à devenir confiants, audacieux, intelligents et heureux. Ne vous moquez jamais des choses qui lui posent un problème. Vous êtes un adulte, vous n'avez plus la vision de la difficulté que représentent les premières connaissances et les premières compétences à acquérir. Ne sous-estimez pas les émotions douloureuses que peuvent vivre les enfants. À 37 ans, je me souviens encore très bien des miennes et je suis certain que vous aussi. Félicitez-le toujours pour les efforts fournis. Attention à ne pas lui mentir, il le comprendrait et vous n'auriez plus aucun impact. Lorsqu'un petit me donne un dessin, je ne m'exclame pas tout de suite « Il est très beau, bravo, tu es très fort !» si ça n'est objectivement pas le cas et qu'il sait que ce n'est pas exactement ce qu'il voulait faire. Je vais plutôt valoriser ce qui est vrai. « Merci, tu as dû passer beaucoup de temps dessus. Je suis touché que tu te sois appliqué pour m'offrir ce dessin. » Je vous assure qu'il fera la différence entre un compliment de complaisance et la reconnaissance de son effort. Amenez-le à réussir. Je ne veux pas dire de lui faciliter la tâche, mais les objectifs que vous lui fixez doivent être atteignables. Ainsi, s'il ne les atteint pas du premier coup, il les atteindra quand même avec de la répétition associée à de la compréhension. Vous pouvez bien sûr l'aider à prendre la bonne voie, sans lui donner toutes les clés, mais plutôt en l'amenant à les trouver lui-même. Enfin, en cas de difficulté scolaire, il vous faut de nouveau collecter des données. Ne faites aucune conclusion sans avoir cherché à comprendre tout l'environnement de l'enfant. Ce que l'on appelle communément « échec scolaire » est souvent le fruit d'événements extérieurs. Vérifiez si l'enfant n'a pas de mal à s'intégrer à sa classe. A-t-il des amis? Combien? Vérifiez si l'enfant n'a pas l'esprit occupé par un événement récent de sa vie. Cela peut être un événement que ses parents ont vécu et dont il se sent affecté par ricochet. Vérifiez si l'enfant n'a pas un problème de vue ou d'ouïe. Vérifiez si l'enfant n'a pas de trouble de la concentration, de dyslexie ou de dyscalculie. Voici une clé. Quoi qu'il arrive, que vous soyez parent ou non, vous pouvez impacter de manière positive la façon de penser des enfants que vous côtoyez. Faites-leur ce cadeau d'emmener dès le début leur cerveau dans la bonne direction.